Radio Okapi.
Les pourparlers ont débuté ce mercredi entre les différentes délégations au troisième round du processus de paix à Nairobi au Kenya. Dans ce journal, nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Nairobi pour en savoir un peu plus sur le déroulement des travaux. Et puis des réactions continuent de tomber après la nomination dans la territoriale par le chef de l'État à Lubumbashi. Si les uns apprécient, les autres les désapprouvent car jugés non représentatives de toutes les sensibilités sociopolitiques de la province. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Philippe Katumba, chargé de communication de l'expo Béton, ce salon de réflexion sur la construction et les infrastructures en RDC, dont la 6e édition s'ouvre ce mercredi ici à Kinshasa. Les réflexions reprennent sur la reconstruction de Kinshasa à l'horizon 2036. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par Nairobi où se déroulent les travaux du troisième round du processus pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Direction donc pour Nairobi pour retrouver notre envoyé spécial Martial Papi Mukeba. Vous êtes en direct de Nairobi. Les jalons ont été posés avec des adresses aux différents participants.
Exactement, Jacques Yves, le facilitateur désigné de l'EAC pour ce processus, s'est adressé aux différentes délégations congolaises. L'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta vient de déclarer que les discussions doivent se dérouler dans le respect de la souveraineté de la RDC. Pour lui, le troisième round du processus de Nairobi doit déboucher sur la publication d'un communiqué final pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Uhuru Kenyatta vient d'annoncer également qu'il aura des séances de travail avec différentes délégations, notamment les groupes armés. Pour sa part, l'envoyé spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi vient de déclarer qu'il ne sera plus possible d'intégrer les groupes armés au sein des forces de défense et de sécurité, mais aussi qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les crimes commis contre les Congolais. La justice transitionnelle sera mise en place pour rendre justice aux victimes, annonce-t-il. Sur la question du M23 qu'il a qualifié d'un mouvement terroriste, l'envoyé spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi vient de préciser, je le cite, « Le leadership du M23 est sous sanction de la communauté internationale et devra rendre compte ». Fin de citation. Cet après-midi, les travaux doivent se poursuivre, probablement en groupe et sous-groupe.
Alors, la vigilance à laquelle le président de la République a fait allusion il y a quelques semaines dans son adresse à la nation n'est nullement à confondre avec la création des groupes armés. La précision est de l'envoyé spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Selon le professeur Serge Tshibangu, les groupes de vigilance doivent veiller uniquement à ce que l'ennemi n'infiltre pas les agglomérations. D'après lui, ils doivent se référer aux forces de défense et de sécurité, à la force régionale de l'EAC, mais également à la MONUSCO en cas d'alerte ou de toute dénonciation. On l'écoute au micro de Martial Papi Mukeba.
Cet appel à la vigilance, au groupe de vigilance, ne voulait pas dire appel à créer des groupes armés. Ça, il ne faudrait pas mettre des intentions au chef de l'État. Un groupe de vigilance, c'est un groupe de vigilance. Ça veut dire c'est un groupe de civils qui sont là pour veiller à ce que l'ennemi n'infiltre pas les villages, les communautés. Et au cas où il y a des conditions pareilles, eh ben, il y a les forces de sécurité qui sont là. Il faut les dénoncer. Il y a des forces, les FRDC qui sont là. Il faudra les dénoncer. Et on appuie également la force régionale et la MONUSCO d'ailleurs, qui sont là en appui au FRDC.
Et puis sur le terrain Nord-Kivu, un calme précaire s'observe ce mercredi dans la zone occupée par les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Selon les sources dans la zone, la localité de Kisheshi est de nouveau passée sous contrôle des rebelles après de violents affrontements hier mardi contre le groupe Mai Mai et les présumés FDLR. Cette localité de la chefferie de Butu et plusieurs autres villages sont présentement vidés de leur population. Blaise Chindani.
Aucun tir n'a été entendu ce mercredi dans la localité de Kishiche, affirment nombreuses sources administratives et celles de la société civile dans la chefferie de Bwito, à l'ouest du territoire de Rutshuru. Les sources affirment que les rebelles du M23 qui avaient perdu le contrôle de cette localité à l'issue des attaques de groupes armés locaux la semaine dernière sont revenus à la charge hier mardi. Ils ont ainsi repoussé la coalition des groupes armés locaux avant de reprendre l'occupation du village. Plusieurs cas de représailles ont été signalés lors de ces affrontements, à la fois contre certains civils qui étaient encore sur place ou encore les miliciens locaux récupérés par les rebelles. Ils les auraient tués, témoignent ses sources. Alors qu'il est, Kishishe reste vidé de ses habitants ainsi que les villages voisins de Kaumiru. Ils ont fui vers Kibirizi, renseigne le fonctionnaire délégué du gouverneur sur place. Celui-ci craint que les rebelles ne coupent la route Windi, Kibirizi, Nyanzali. Par ailleurs, nos sources affirment que le M23 sont toujours déployés dans toute la chefferie de Bouicha, dans les trois groupements de la chefferie de Bouito, notamment Bambo, Bichoucha et Tongo, ainsi que dans Kibumba, en territoire de Nirangongo.
Entre-temps, en Ituri, l'administrateur militaire du territoire de Mambasa fustige la décision de la société civile Force Vive de ce territoire d'inciter les opérateurs économiques et petits commerçants à l'incivisme fiscal sur toute l'étendue de cette entité. Ces derniers ont suspendu leurs activités depuis mardi pour dénoncer l'absence des opérations militaires contre les rebelles des ZADF et leurs alliés Mai Mai face à la persistance de l'insécurité dans la région, mais aussi la dégradation des routes nationales numéro 4 et 44. L'autorité territoriale, le colonel Jean-Baptiste Matadi, désapprouve cette démarche qui, selon lui, est de nature à compromettre les efforts du gouvernement et de l'armée qui mènent des opérations contre cette force négative. Jean-Baptiste Matadi a été joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
Je n'ai pas apprécié ça parce que la société civile semble se comporter en opposant des autorités ou du gouvernement. La revendication peut être juste, mais la faisabilité n'est pas bonne parce que nous avons des populations qui ne vivent que quand ils sortent. Ils n'ont une petite bouffe que quand ils sortent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train d'amener de l'eau au moulin de l'ennemi parce que ils demandent la sécurité. Mais la sécurité a un prix. C'est-à-dire le gouvernement doit avoir les moyens pour donner cette sécurité, donner du matériel aux militaires, ravitailler les militaires et tout ça. Et ça viendra d'où? À la population de Mambasa, je demande de ne pas être manipulée.
Autre nouvelle, il s'est tenu du 28 au 29 novembre à Londres la conférence de l'Initiative internationale pour la prévention des violences sexuelles en temps de conflit. L'initiative de prévention de la violence sexuelle dans les conflits vise à sensibiliser à l'étendue de la violence sexuelle contre les femmes, les hommes, les filles et les garçons dans les situations de conflits armés, mais aussi à mobiliser l'action mondiale pour y mettre fin, renforcer le soutien aux survivants et aux enfants nés de violences sexuelles dans les conflits en luttant contre la stigmatisation à laquelle ils sont confrontés au sein de leur communauté. L'un des objectifs de cette conférence, comme le dit Solange Loachiga, secrétaire exécutive des femmes leaders du Sud Kivu, faisant partie de la délégation de la RDC et les jointes depuis Londres par Rachel Kesembango.
La fin de cette conférence a été sanctionnée par une déclaration politique des pays qui ont participé à cette conférence. Cette déclaration qui va dans le sens d'accélérer les actions pour mettre fin à la violence sexuelle en temps de conflit, la responsabilisation des acteurs pour plus de redevabilité, la question de lutter contre l'impunité. Il y a également le vœu d'accorder une assistance aux survivantes et éradiquer, bien sûr, le stigma. Il y a également la question de contextualiser des actions, des programmes qui tiennent compte des contextes divers afin que chaque pays puisse apporter sa contribution pour le changement.
Au Kwilu, la société civile du territoire de Gungu dénonce des cas de vindictes populaires perpétrés par la population dans cette entité. D'après cette structure, au moins 16 cas sont déjà enregistrés depuis les débuts de l'année 2022, occasionnant la mort d'une cinquantaine de personnes. Le dernier cas en date, c'est le meurtre mardi 29 d'un homme par ses neveux. Joachim Kusamba, président de cette structure, condamne cette pratique et invite la population à l'éviter tout en saisissant les instances judiciaires qui selon lui, sont les seuls à rendre justice. Le point avec Irène Beaumont.
Selon le président de la société civile de Gungu, les derniers cas de verdict populaire signalés dans ce territoire, c'est celui enregistré hier mardi au village Kivunkutu dans le secteur de Kobo. Il s'agit d'un pasteur de l'église du Saint-Esprit qui a été tué à coups de bâton par les membres de sa famille qui l'ont accusé de sorcier après la mort de sa nièce, comme le dénonce Joachim Kusamba. Il condamne des cas de verdict populaire qui, d'après lui, sont récurrents dans cette partie de la province de Kwilu et qui ont déjà fait plus de 50 victimes depuis le début de l'année en cours.
Il y a sa nièce qui est décédée, les neveux, et ils ont monté un groupe pour aller voir les pasteurs, sous pression que c'est celui qui avait tué la nièce. On l'obligeait d'aller consulter les marabouts, sous pression de ses neveux. Finalement, il a cédé. C'est comme ça qu'en cours de route, le pasteur sera tué par ses neveux. Donc, le cas de justice populaire, le taux commence à être élevé. Depuis le début de cette année, donc notre monitoring révèle que, et ça c'est le 16e cas, on totalise 56 morts par justice populaire. Et nous continuons toujours à sensibiliser la population en interdisant la pratique de justice populaire. Et que s'il y a un problème, il faut consulter les juridictions judiciaires au lieu qu'elles-mêmes commencent à se faire justice.
Du côté de la police de Gungu, son commandant, le colonel José Lumona, indique que des recherches sont lancées pour retrouver les auteurs de ces meurtres en cavale. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. 11 enfants en rupture familiale communément appelés Chege ont été immolés ce mercredi à l'aube par ceux d'une bande rivale au stade municipal de Bandalungwa. Le potentiel vital n'est pas engagé pour le moment, affirme le bourgmestre Bailon Gaibene. Ils ont été évacués à l'hôpital général de référence de Kinshasa pour des soins appropriés. La victime serait âgée d'une dizaine d'années, d'après le bourgmestre de Bandalungwa. Il revient sur le fait au téléphone de Babel Pongo Masimango.
Vers 5h du matin, les enfants en rupture avec la famille, qui passent nuit à la Belle Étoile, ils ont escaladé le mur du stade municipal. Ils étaient au nombre de 11, dont 10 garçons et une fille. Ils ont dormi. Alors, comme vous le savez, le jeune en rupture avec la famille vit en bande. Et l'autre bande, qui passe nuit au foyer social dans un garage, est venue, avec de l'essence, asperger les autres qui dormaient dans l'enceinte du stade municipal, à immoler les 11 là. Il n'y a pas eu perte en vie humaine. Il y a eu plus de brûlures au premier degré. Tout de suite, on les a amenés à l'hôpital général de Kinshasa. Ils ont été pris en charge. La suite, on le saura. Et les enquêtes sont en cours puisqu'on a arrêté l'autre chef de bande dont je ne citerai pas les noms puisque les enquêtes sont en cours pour ne pas faire échapper les autres.
Situation presque similaire dans l'ex-cité du Kwilungongo en territoire de Mbanzangungo au Congo central. Une altercation survenue hier soir entre deux groupes de gangs a provoqué plusieurs dégâts matériels. L'administrateur adjoint de Mbanzangungo qui confirme les faits indique que la police qui devrait maîtriser la situation est intervenue tardivement. Didier Nsi attribue ces troubles à répétition dans ce coin du Congo central à l'absence de l'autorité de l'État à Kwilungongo qui est une commune urbano-rurale en devenir. Les dernières nominations par le président de la République des maires, des bourgmestres, des administrateurs des territoires et de leurs adjoints respectifs sont diversement interprétées dans le Haut-Katanga. Si les uns les apprécient, les autres les désapprouvent car jugés non représentatifs de toutes les sensibilités sociopolitiques de la province. Dans ce contexte et face à la tension qui monte, certaines voix s'élèvent pour appeler les uns et les autres au calme. Jean Gandou.
Depuis cette mise en place, les dirigeants des partis politiques et associations font des déclarations qui vont dans tous les sens. Pour les uns, ces nouvelles nominations tombent à point nommé pour redynamiser les différentes entités. Pour les autres, elles viennent attiser la tension entre communautés. Si les partis politiques et autres associations dont les membres ont été nommés à des postes de responsabilité s'en félicitent, d'autres par contre crient à l'injustice et disent ne pas se retrouver dans cette nouvelle mise en place car d'après eux, elle n'est pas représentative. C'est ainsi que les réseaux sociaux sont envahis par des prises de position les unes plus tranchantes que les autres. Il y en a qui demandent tout simplement au président de la République de rapporter ses ordonnances pour assouplir la tension qui monte. Face à cela, certains responsables appellent les uns et les autres au calme. Pour Max Pandé, président de l'association socioculturelle Luanzolo Amikuba, l'heure n'est plus au déchirement et à la division. Tout le monde doit garder son calme pendant que des contacts sont pris avec la haute hiérarchie pour faire entendre les revendications des communautés. De son côté, le pasteur Matebwe Lambalamba, président de l'Union des Églises indépendantes du Congo, invite la population à garder son calme et sa sérénité et surtout à faire confiance aux autorités. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Kassai Oriental, parlant des difficultés des conservations des corps dans les hauts hôpitaux du Kassai Oriental, la ville de Mbujimayi est estimée à près de 2 millions d'habitants. Depuis quelques jours, les morgues de la ville sont de plus en plus saturées. Certaines familles éprouvées ne savent plus organiser les obsèques dignes suite à cette situation qui les pousse à vite enterrer les leurs. Des côtés des autorités sanitaires, aucune maladie ou événement anormal n'est jusque-là identifié pour justifier l'augmentation des cas de décès enregistrés ces derniers jours. Des explications avec Esther Ndalafine.
Cette situation a été constatée au niveau de la morgue de Bonzola où les dépouilles ont été retournées la semaine dernière et le week-end par manque de place, comme Ndaya le confirme ici.
Toubek sont partis déposer le corps d'une maman de notre quartier, mais à la morgue, il n'y avait pas de place. Ce n'était pas du tout.
Cependant, à la morgue privée de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance, on rejette ces allégations. Pour la gestionnaire sœur Julienne Kapinga, cette saturation a été enregistré les deux mois précédents. Actuellement, la situation s'est améliorée vu la capacité du frigo mortuaire.
Je parlerai du mois de septembre-octobre, on était très saturés. Mais comme il y a si souvent les entrées et les sorties, nous, notre capacité est de 50 corps. Donc, je ne dirais pas saturé.
Du côté des autorités sanitaires, rien ne justifie actuellement l'augmentation des cas de décès sur la ville. Signalons que certains corps conservés dans les morgues de Mbujimayi proviennent aussi des villages situés loin de la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En international, l'Union européenne va travailler à la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie en Ukraine, a annoncé mercredi 30 novembre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répondant à une demande de Kiev. Nous travaillerons avec la Cour pénale internationale et aiderons à mettre en place un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie, a-t-elle déclaré sur Twitter.
L'invité.
Le salon de réflexion sur la construction et les infrastructures en RDC, dénommé Expo Béton, ouvre les portes de sa 6e édition ce mercredi. Objectif de cette année, achever les réflexions entamées à la 5e édition sur le statut de Kinshasa comme province et pas seulement comme ville. De quoi sera-t-il concrètement question dans ce rendez-vous? Réponse du chargé de communication de l'Expo Béton, Philippe Katumba, s'entretient ici avec Donna Madimba. Suivez.
Philippe Katumba, bonjour.
Bonjour.
Avant de vous poser les questions concernant les spécificités de cette édition particulière de cette année, quel bilan dressez-vous déjà à ce stade des 5 premières éditions de l'Expo Béton?
Merci pour la parole. Donc, comme vous-même vous l'avez bien dit, Expo Béton est à sa 6e édition. Pour cette édition, nous allons une fois de plus nous appesantir sur la problématique relative à la ville-province de Kinshasa, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de l'édition passée. Lors de la 5e édition, donc l'édition précédente, on avait également réfléchi sur comment doter la ville de Kinshasa d'un statut particulier, lui conférant en quelque sorte l'autonomie d'évoluer comme une province à part entière, mais qui devrait comporter à son sein 4 autres villes. À l'issue de la 5e édition, de résolutions ont été proposées et ces résolutions-là ne sont pas jusqu'alors de lettres mortes, comme on dit.
Qu'est-ce que c'est exécuté?
Les autorités ont saisi tout de même cette question. Ils ont jeté un regard aussi singulier à tout ce qui était comme résolution de la précédente édition, raison pour laquelle la présente édition sera co-organisée par le Sénat pour dire que la législation veut faire en sorte que cette question puisse devenir imposable à tous. Je profite encore de votre micro pour dire que la présente édition sera sous le patronage du chef de l'État. Donc, nous avons le privilège de bénéficier de l'ouverture.
L'écoute la plus importante du pays. Mais quelle sera alors la particularité de cette 6e édition que vous présentez comme ayant l'écoute la plus importante des autorités du pays?
En quelque sorte, c'est une suite logique, puisque la 6e édition va une fois de plus s'apesantir sur la question de Kinshasa, mais sous un aspect un peu plus global. Alors, quand je parle de 6 piliers, vous comprenez maintenant, à ce niveau-là, nous allons partir d'une manière aussi particulière, pilier par pilier, décryptage d'une manière aussi approfondie pour que enfin cette fois-ci nous puissions proposer de résolutions aussi pratiques qui en fait qui devraient être exécutées à court terme.
Les cinq piliers très rapidement.
Le cinq piliers que nous aurons exploité, il y a par exemple le pilier sur le financement, parce que tout ce que nous aurons à préconiser comme politique visant à moderniser la ville de Kinshasa à l'horizon 2036 aura bel et bien besoin de financement pour sa matérialisation. D'où la question finance, comment accéder au financement pouvant permettre à ce que cette question puisse être traitée. Deuxièmement, l'autre pilier, le pilier du transport rapidement, vous savez que la mobilité dans la ville de Kinshasa pose énormément de problèmes. Comment décongestionner Kinshasa? Et telle est la question qui seront aussi posées au cours de cette question. Rapidement, là, selon les informations à notre disposition, le besoin de mobilité dans la ville-province de Kinshasa est à l'ordre de 8 millions de personnes par jour, sur un total de 15 millions selon les estimations. Faire déplacer 8 millions de personnes, monsieur le journaliste, le système de transport en commun à Kinshasa est basé sur le bus. S'il faut faire un calcul rapidement, 8 millions de personnes donc à travers le bus Transco, un bus Transco à 200 places, donc il nous faudra 40 000 bus pour assouvir à cette demande. Réfléchissez, injecter 40 000 bus dans les infrastructures routières qui sont déjà dans des états un peu plus délabrés, ça va encore créer en quelque sorte une saturation en termes de véhicules. On va exploiter ou bien explorer le code routier de notre pays. Comment faire pour qu'il y ait l'harmonie entre ceux qui roulent sur la voie publique? Expo Béton est presque présent dans tout le secteur de la vie nationale.
Chargé de communication de Expo Béton, Philippe Katumba, je vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République et même à Nairobi, sous la coordination d'Élisée Chikota et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci également à vous pour nous avoir suivis.